Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans cette émission des Contrariantes, nous discutons la façon dont nos sociétés considèrent et utilisent la science. Puis nous parlons avec Pascal Bruckner de son dernier livre, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'instrumentalisation de la science dans notre société. La vraie science est une ignorance qui se sait, écrivait Michel de Montaigne. Or, ce n'est pas exactement de cette façon que notre époque traite la science. Le mot est sur toutes les lèvres depuis le début de la pandémie de Covid-19. Un mot qui impose le respect car il implique une démarche rationnelle et objective de constitution du savoir, fondée sur la vérification et l'expérimentation. Mais dans une société qui se targue de son avancée en la matière, il est frappant de voir à quel point le rapport à la science peut être opportuniste. Jugez-en plutôt. Pendant la crise sanitaire, la science a servi au gouvernement à justifier tout et son contraire, comme l'inutilité du port du masque, puis sa nécessité, ou encore... Elle sert aux médias à dénigrer les imbéciles qui croient à la médecine alternative pour ne pas attraper le Covid-19, alors que ces mêmes médias peuvent donner dans les théories les plus farfelues et non scientifiques dans certains sujets. Dans un domaine auquel Peggy et moi nous intéressons particulièrement, on entend parler en permanence, par exemple, de patriarcat systémique ou de culture du viol, sans aucune démonstration convaincante à l'appui. En fait, dans la science, chacun semble prendre ce qui l'arrange, ce qu'on appelle en anglais faire du cherry picking. C'est une tendance plus forte encore du côté du pouvoir, politique ou médiatique, qui utilise la science pour arriver à ses fins, et peut-être plus marquée aussi dans notre rapport aux sciences humaines. Car si on peut sélectionner ce qu'on veut dans les sciences dures, il est peut-être plus facile de le faire dans les sciences humaines où les théories charlatanesques se développent plus facilement. Alors je m'adresse à toi, Peggy, parce que tu es docteur en philosophie des sciences, pour savoir ce que tu en penses et te poser la question suivante. Y a-t-il pas un dilemme ? Parce que la science n'interdit pas qu'on l'utilise. Alors, où mettre la frontière entre l'utilisation honnête, bien qu'imparfaite, de la science et son instrumentalisation ?
Eh bien, c'est une formidable question. En fait, pour rebondir ce que tu disais au tout départ, je pense en fait que un des problèmes antérieurs à l'instrumentalisation de la science, c'est en fait le trop grand respect qu'on lui accorde et souvent je me fais critiquer, on dit que je suis scientiste, que voilà, j'accorde trop de pouvoir à la science et tout, mais en fait c'est pas du tout vrai dans le sens où pas quand on pratique, parce que justement je suis pas chercheuse, je ne pratique pas la science, mais quand on est assez proche de son fonctionnement, en gros on voit que c'est en fait que c'est un bordel assez innommable. Et mais c'est aussi pour ça qu'elle marche, qu'elle avance. En fait, il en va d'une idée reçue assez partagée. Enfin, tu vas me dire, c'est le principe d'une idée reçue sur les méthodes scientifiques. C'est qu'en fait son point fort, c'est pas du tout de nous permettre d'avoir toujours raison, mais au contraire de savoir que nos intuitions et nos certitudes sont faillibles en fait, et de nous faire comprendre pourquoi et comment nous trompons. Et pour venir voilà au bordel de la science qui se fait quoi, comme dire la cuisine de la science, je renvoie à un livre qui vient de paraître cet été en anglais, qui s'appelle Science Fiction de Stuart Ritchie. En fait, c'est un livre que si vous restez, non pas des illusions, une appréciation comme ça de la science qui remplace quasiment le divin, quoi, le côté oui, bah la science a parlé, voilà, il y a plus rien à dire. En fait, pas du tout. Ce livre, donc Stuart Ritchie, qui est un chercheur écossais spécialisé principalement en sciences cognitives, il montre en fait que la recherche scientifique est la proie des erreurs, à des impostures, à de l'incompétence, de la cupidité. Et en fait, l'idée, c'est ce que j'appelais le côté divin de la science, c'est qu'on souvent on pourrait avoir l'impression qu'en fait que les scientifiques sont des êtres éthérés qui sont totalement libres des défauts des humains lambda, voilà, qui sont supérieurs et qui sont supérieurs à la plèbe. Et en fait pas du tout. Et c'est aussi pour ça que la science est intéressante et plus qu'intéressante. En fait, ce qui fait vraiment sa force, c'est que la méthode scientifique permet non pas en fait de se débarrasser des biais, parce que tout le monde en aura, et justement c'est partir du principe que tout le monde a des biais, et c'est donner une méthode pour en fait nettoyer de manière très cumulative et progressive et même comment dire boiteuse, enfin tu vois ce que je veux dire.
Tout à fait. Mais ça revient à la citation de Montaigne, en fait.
Tout à fait, ouais.
Tout à l'heure, qui est « La vraie science est une ignorance qui se sait ».
Bien sûr. Ouais. Et dans ce livre donc, que j'ai lu cet été, ça m'a fait, comment dire, j'en suis vraiment revenue à l'idée que je serais une scientiste et qui regarde un peu la science avec les yeux de chimène en voyant pas ses défauts. Et ça m'a fait vraiment marrer, parce que j'étais là, mais en fait, jamais. Et même si, effectivement, Stuart Ritchie m'a appris plein de choses, c'est pour ça que je recommande la lecture de son livre, qui est à mon sens assez inédit dans ce dévoilement justement de toute la cuisine scientifique.
C'est vraiment passionnant ce que tu dis. Je pense que très peu de personnes savent ce que tu dis. Mais alors, j'ai l'impression que ça complexifie encore plus le problème, parce qu'une fois qu'on a dit ça, comment on peut faire la différence, surtout quand on n'est pas scientifique soi-même ou qu'on est journaliste, entre une théorie qui a fait ses preuves, puisque à mon avis, c'est comme ça qu'on va considérer qu'une théorie est scientifique, et une théorie qui est farfelue, qui soit a été falsifiée, quoi, soit qui n'est même pas falsifiable, ce qui est encore pire. Alors, je citais tout à l'heure des sujets de société qui nous intéressent toutes les deux. Dans la question du genre, par exemple, moi, j'ai l'impression qu'on entend un peu tout et son contraire, enfin, plutôt un peu tout et pas son contraire, et qu'on nous présente comme de la science des choses qui n'en sont pas. Alors, justement, quelqu'un qui t'entendrait dirait « oui, mais la science est en formation ». Finalement, d'une certaine façon, tout se vaut. Alors, ma première question, ce serait comment on fait la différence entre la validité d'une théorie scientifique ? Et ma seconde question serait, quand on est journaliste, comment faire pour se repérer, en fait, dans ce labyrinthe? Et comment faire aussi pour lutter contre ses propres biais? Parce que finalement, si le scientifique lutte contre ses biais, il faut que le journaliste, ou aussi tout citoyen, finalement, lutte contre les siens.
En fait, pour commencer par la deuxième question, moi, en fait, dans ma pratique de journaliste, ce que je fais, c'est que, enfin, déjà, je pars des sources. Je lis la littérature primaire. Je me contente pas des communiqués de presse ou des recensions ici et là. Et surtout, je reste en étroit contact avec les chercheurs, qui ont fait les études. Ça aussi, ça peut être critiquable, et c'est d'ailleurs critiqué. On peut dire qu'il y a trop de complaisance, on prend trop les paroles des chercheurs pour paroles d'évangile. Mais en même temps, je pense qu'en tant que journaliste, il faut avoir la présence d'esprit, la modestie. Enfin, c'est plus que de la modestie. C'est pour toujours revenir à Montaigne, faut vraiment savoir son ignorance. Et effectivement, comment dire, balancer les coûts et les bénéfices. Oui, il y a un coût de prendre les paroles des chercheurs pour non pas paroles d'évangile, mais dire les présenter tels qui eux les exposent dans leurs études et leurs recherches, etc. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais peu dans mon travail, c'est de me dire que moi, je suis à même de critiquer. De critiquer les recherches. Après, je peux effectivement, par exemple, c'est ce que j'ai fait avec le patriarcat du steak sur Slate, je peux effectivement aller voir des scientifiques, je peux faire parler les scientifiques entre eux, c'est comme ça que ça se fait la science. Mais moi, je suis vraiment très sceptique, et même c'est plus que du scepticisme, je suis très, en gros, je regarde d'un très mauvais œil les journalistes qui, en gros, se la racontent des bunkers, quoi.
Mais justement, est-ce que tu peux revenir sur cet épisode de ce que tu as appelé le patriarcat du steak ? Parce que c'est un bon exemple, en fait.
Tout à fait.
De ce que tu dis.
Bah en fait le patriarcat du steak ça s'appelle pas comme ça dans les études, c'est comme ça que je l'ai surnommé. Donc c'est une thèse de Précil Touraill qu'il y a un point aveugle dans les recherches sur le dimorphisme sexuel. Donc le dimorphisme, c'est la différence de morphologie, de taille entre les mâles et les femelles, qui en fait se focalise trop sur l'aspect biologique des choses et qui minimise et même dénigre l'aspect culturel. Et elle fait l'hypothèse que les différences hommes-femmes et de taille, hein, le fait que les femmes soient en moyenne plus petites que les hommes vient notamment du fait que depuis des millénaires les hommes, en gros, mangent plus que les femmes, et notamment des protéines. Et donc voilà, cette thèse est publiée au début des années 2000. Il se passe à peu près rien parce que effectivement, cette thèse va à l'encontre de tout un consensus effectivement biologique sur la différenciation de taille et de morphologie des mâles et des femelles, qui est en gros liée à la sélection sexuelle, le fait pour les mâles au niveau de la compétition entre eux d'être forts et grands, et alors que les femelles n'ont pas cet avantage reproductif. Quand la thèse paraît, il se passe à peu près rien parce que c'est normal, elle est très faiblarde, quoi. Et médiatiquement, en fait, elle reprend du poil de la bête parce qu'il y a un documentaire d'Arte, donc ça aussi, je pourrais en faire des poèmes, les documentaires d'Arte scientifique. Il y a vraiment, pour le coup, à boire et à manger, qui sort en 2014, qui fait le tour du monde, qui est très bien vendu à l'étranger, notamment en Suède. Ce documentaire prend les parties les plus les plus caricaturales de la thèse de Touraill. Après, je veux pas du tout dédouaner Touraill en disant le documentaire a mal rendu ses travaux, parce qu'elle était conseillère scientifique sur ce documentaire, et pour cause, parce que ses hypothèses étaient très bien rendues dans ce documentaire. Elle dit elle-même pour cet article dans Slate, j'ai trouvé par exemple des conférences où elle dit qu'elle est une féministe matérialiste qui a fait de l'anthropologie pour détruire les sciences naturelles, quoi. Donc t'es là, bon, ok, super.
Non, mais tu expliques finalement la diffusion et la réception de sa thèse, et c'est ça qui t'a amené à réagir, je pense.
C'est ça, donc voilà, cette thèse reprend du poil de la bête médiatiquement, parce qu'il y a ce documentaire sur Arte qui a un énorme succès, donc à la fois à l'international et notamment dans les milieux féministes. Et c'est comme ça que c'est arrivé. C'est arrivé à mes oreilles et à mes yeux, parce que j'ai vu que plein de gens dans les médias français s'excitaient dessus. Il y avait France TV, il y avait plein de ce genre de support qui donnait en plus un crédit énorme à cette histoire. Donc là, je me suis dit, bon, sors un peu, pas de ta zone de confort, mais sors de ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire parler des études de manière un peu, on va dire complaisante, à faute d'un meilleur mot, mais en tout cas de manière non critique. Et là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire, retrousse tes manches et va en gros voir les scientifiques, leur parler de ta thèse et qui t'explique pourquoi et comment c'est complètement fumeux. Et c'est donc voilà, c'est un article en deux parties que j'ai fait pour Slate. Et le premier, c'est vraiment le côté scientifique, pourquoi est-ce que c'est faiblard, etc. Et le deuxième, c'est plus une réflexion sur pourquoi, en gros, est-ce que les médias ont autant mordu à l'hameçon, quoi.
Non, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu décris et dans l'engouement des gens pour certaines théories, ou bien le rejet de certaines théories, c'est que j'ai l'impression que le fait qu'on voue une sorte de culte à la science peut provoquer un effet contraire, enfin une espèce de retour de bâton. Je pense notamment à ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19, où en fait l'attitude un petit peu ambiguë de l'OMS, qui a pris déjà un petit peu trop de temps pour alerter du danger de l'épidémie, et puis ensuite qui n'était pas claire sur la question du port du masque, et qui a mis du temps aussi à avoir une position claire, d'une certaine façon confirmé le scepticisme de gens qui sont déjà sceptiques, ou voire complotistes. Et j'ai l'impression que ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ce culte de la science, peut faire beaucoup de mal à la science, au sens où justement elle hérisse les gens, et aussi parce que cette science-là, ou plutôt même ce scientisme, va un petit peu contre le bon sens à certains moments. Et je pense que il faut aussi parfois, dans certains cas, considérer le bon sens. Je m'explique. Si on prend la question du port du masque, au début, alors que les instances officielles n'avaient pas pris de position là-dessus, il y a beaucoup de gens qui s'étaient mis à porter le masque parce que ils avaient quand même l'impression que ça pouvait faire éventuellement les protéger et que ça pouvait surtout protéger les autres. Mais avec cette idée qui était la suivante, le coût à ne pas porter le masque est peut-être potentiellement très fort, mais le coût de le porter est très faible, donc finalement, portons-le. Parce que voilà, la comparaison entre les deux coups finalement va dans ce sens. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que parfois les gens ordinaires que nous sommes ont des réactions que moi je trouve très scientifiques entre guillemets, mais il n'y a pas eu de validation scientifique officielle et donc les instances officielles vont expliquer que c'est absurde. Et je me demande comment on pourrait un peu mieux réconcilier, en fait, ces deux positions. Je me demande aussi si ça vient pas du fait que parfois, dans la science, il peut y avoir une façon très abstraite, en fait, de considérer les problèmes, alors qu'en fait, les gens, au quotidien, ils sont dans des situations de risque concrets. Donc, ils vont pas se poser les questions dans les mêmes termes. Ils vont se les poser dans des termes vraiment cruciaux et vitaux. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ben, j'en pense que ça m'interpelle grandement. Je ne sais pas si j'ai des réponses, définitives. Pour le coup, on retrouve le sujet parce que une des idées reçues sur la science, c'est que justement qu'elle a des réponses définitives. Et je pense que un des gros problèmes dans la gestion de cette pandémie, c'est qu'il n'y a pas eu, un discours assez clair qui dès le départ aurait dit, on ne sait pas, voilà, c'est un virus nouveau, on ne sait pas, on apprend en marchant au jour le jour. Et de toute façon, la science fonctionne comme ça. La science, c'est un processus qui consiste à se donner tort en permanence, en fait. Et donc oui, on va faire des erreurs, on va corriger ces erreurs, mais justement l'important, c'est de corriger ces erreurs. Alors que surtout au début, notamment comme tu disais avec les masques et tout, le gouvernement français s'est enferré dans une position, en gros, on vous donne la vérité et avalez-la, même si c'est complètement contre-intuitif. Pour le coup, le terme de bon sens, je l'aime pas et j'aime souvent et à l'inverse, j'aime souvent rappeler cette phrase de Dawkins dans un débat. Et voilà, quelqu'un qui disait, oui, est-ce que la science va contre le bon sens? Et là, il disait, vous savez, le bon sens a été façonné dans notre cerveau à une époque où le cerveau humain n'avait que trois tâches fondamentales à réaliser, c'est-à-dire manger, baiser et s'enfuir dans un arbre au moindre signe de danger. Arrêtez de m'emmerder avec le bon sens. Heureusement qu'on a dépassé, qu'on a dépassé ce stade. Bref, parenthèse fermée, mais sans forcément parler de bon sens, il y a effectivement un empirisme assez intuitif que tout à chacun a. Et effectivement, quand vous avez un virus qui semble respiratoire, ben protéger ses voies respiratoires par un masque, effectivement, comme tu disais, si ça rapporte peut-être peu, ça coûte aussi peu, et donc faisons-le. Et en plus, je me suis trompée. Pour un coût faible, ça peut rapporter gros. Une des erreurs que le gouvernement a fait, mais pas que lui, hein, mais vu qu'on est en France, on va rester sur le nôtre, c'était justement, voilà, de dire dès le départ, voilà, on n'est pas là pour vous donner une vérité définitive, parce que les vérités définitives n'existent pas, c'est ce qu'on appelle des dogmes, et les dogmes, c'est pas bien. justement, on en revient toujours au début et à Montaigne. On connaît notre ignorance et on agit par rapport à ça, quoi. On fait au mieux par rapport à ça.
Exactement. Mais en fait, ce qu'on touche là, c'est la question du pouvoir. Du pouvoir politique. Et ce qui est assez frappant dans nos sociétés, c'est que le pouvoir politique semble pensent se rendre plus forts se plaçant sous l'égide de la science. Et c'est, à mon avis, c'est assez inefficace, voire contre-productif. Finalement, le pouvoir n'ose jamais dire qu'il a tort. C'est une constante de l'histoire politique, et en France, peut-être encore plus qu'ailleurs, parce qu'on a un pouvoir très centralisé, très vertical, très unificateur. Donc, entendre le président de la République douter, je pense que ça va contre toute notre histoire. Et pourtant, je pense que c'est en effet nécessaire, et surtout dans des temps incertains, et une pandémie, c'est un temps très incertain, le pouvoir devrait assumer de dire qu'il ne sait pas tout et voir ce que ça donne. Mais bon, pour avoir, disons, moi-même fréquenté des ministères, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, et avoir vu de près la machine, je pense qu'on est extrêmement loin de tout ça, parce que moi, je me rappelle, quand j'écrivais les discours d'un ministre, donc c'était il y a 10 ans, qu'il fallait faire extrêmement attention à tout ce qu'on écrivait, et la moindre parole qui pouvait faire penser que l'État était faible, entre guillemets, hein, faible, c'est-à-dire qu'il ne savait pas, faisait peur à tout le monde. Il fallait toujours rassurer les Français. Voilà, l'idée, c'était rassurer. Et rassurer, ça veut dire, pour le pouvoir, en rajouter sur sa certitude et sa puissance. C'est ce qui amène aussi, tous les ans, quand on prépare le budget de l'État, à surestimer la croissance de l'année d'après. On sait que la croissance de l'année d'après sera peut-être 1%, 1,5%, mais on va dire que c'est 2%, 2,5%, parce que sinon, ça va faire peur aux Français. Donc ça, je me rappelle, quand j'étais en cabinet ministériel, j'entendais tout le temps, attention, il ne faut pas faire peur aux Français. Le résultat, c'est que pendant une pandémie, le fait de ne pas vouloir faire peur, eh bien, ça leur a fait plus peur.
Pour le coup, je n'ai aucune expérience politique et encore moins de cabinet. mais je perçois totalement ce que tu dis, et moi, en fait, quand j'entends le genre de mantra, il faut rassurer les Français, en fait, moi, j'entends, faut les prendre pour des cons, quoi. Il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc, nous sommes les sachants, nous sommes les experts, nous sommes en gros les bergers de la nation, et je pense que c'est une raison de la défiance générale qu'on observe par rapport aux politiques, qui peut se muer en montée du populisme, et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte par nos chers dirigeants.
Nous terminons cette conversation sur ces paroles contrariées et contrariantes. Et c'est le moment de passer à la contrariété du jour. Je vais commencer par la mienne. Alors, ma contrariété du jour concerne Arnaud Beltrame. Vous vous rappelez certainement cet officier de gendarmerie qui est décédé le 23 mars 2018 après s'être substitué à un des otages de l'attaque terroriste d'un supermarché de Trèbes dans l'Aude. Alors, une plaque inaugurée en son honneur en février dernier par Anne Hidalgo à Paris a provoqué tout récemment, en fait, la colère, la moquerie de nombreuses personnes, parce qu'on s'est rendu compte que le texte sur la plaque se terminait par les mots suivants « victime de son héroïsme ». Alors, c'est une formulation assez étrange, et la majorité des gens qui critiquent cette plaque disent que c'est un cache-sexe. En fait, il a été victime du terrorisme islamiste et pas d'autre chose. Je suis évidemment d'accord avec ça, et ça me contrarie tout à fait, mais moi, j'irai encore plus loin. Je suis assez étonnée du fait qu'on puisse dire qu'on est victime de son héroïsme, comme si l'héroïsme était finalement un problème et quelque chose presque à éradiquer, parce que normalement, quand on est victime de quelque chose, on n'a pas envie de le rester. Donc, en tout cas, c'est une façon très péjorative de parler de l'héroïsme. J'avais envie de vous citer quelques phrases d'un ouvrage qui sort fin octobre chez Grasset, qui s'appelle « Éloge du courage », qui a été écrit par Jean-Claude Gallet, qui était jusqu'en 2019 à la tête de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, avec Romain Gubert, qui est journaliste au Point. Je cite « Ceux qui meurent au combat ne sont pas des victimes. Ils ont effectué une mission et leur mort a toujours un sens. Lors de l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan, en août 2008, où 10 soldats français ont trouvé la mort au nord-est de Kaboul, beaucoup de militaires n'ont pas compris lorsque le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, a fait passer ses 10 morts au combat pour des victimes en demandant à ce que les responsabilités au sein de l'armée soient recherchées. Ils étaient des héros, pas des victimes. Alors j'ai trouvé ce passage très beau et je pense qu'il dit tout. Et je trouve assez inquiétant qu'une société considère l'héroïsme en fait comme une anomalie, un risque à ne pas prendre, alors que nous avons évidemment besoin de héros et de personnes qui prennent des risques pour nous.
Pour rebondir sur cette histoire de victime de son héroïsme, en fait, moi, quand j'ai vu tous les gens s'énerver pour cette histoire, donc il y a mon côté anticonformiste qui a été activé, parce que j'étais là, mais pourquoi est-ce que tout le monde s'énerve? En gros, quand les gens sont tous d'accord, ça me c'est même pas rationnel, en fait. J'ai vraiment un réflexe de prendre le contre-pied. Donc j'ai commencé à me dire mais quoi, victime de l'héroïsme, voilà, c'est une formule littéraire. Mais après j'ai réfléchi, je me dis mais non, mais ça, en fait, ça va pas dans le contexte. C'est voilà, c'est une plaque, c'est pas un livre. Et même victime de son héroïsme, comme tu viens de le détailler, ça veut absolument rien dire. Parmi les réactions rigolotes qu'on a trouvées sur internet à ce moment-là, il y avait une image, donc c'est place Jean Moulin, donc 1899-1943, ancien préfet, victime de son refus d'obtempérer. Alors ça m'a fait beaucoup rigoler. Et donc je vais passer à ma contrariété personnelle. Donc c'était il y a quelques jours, Facebook et Twitter ont carrément censuré un article du New York Post, donc qui est un tabloïd très très lu et très diffusé aux États-Unis. Parce que donc c'était un article, une enquête sur que le fils de Biden, donc Hunter, aurait échangé des emails avec des Ukrainiens. Donc en plus l'histoire est très trouble, parce que c'est son ordinateur aurait été, on ne sait pas s'il a été hacké ou est-ce qu'il l'a laissé, un réparateur, etc. Mais en même temps, j'ai pas envie de m'étendre sur le fond de l'article, parce que c'est vraiment le principe qui me hérisse, c'est de quel droit en fait des réseaux sociaux, donc en l'occurrence Facebook et Twitter, décident pour le commun des mortels ce qu'ils ont le droit ou pas de partager sur les réseaux. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est vraiment ça ce qui me contrarie fondamentalement, c'est en fait la connerie du geste de Facebook et Twitter. Ils ont pas pensé deux secondes que ça allait être repéré, donc effectivement que des gens allaient voir qu'ils pouvaient pas poster. Moi j'ai fait le test, hein, on pouvait pas le poster à la fois sur les timelines, on pouvait pas l'envoyer aussi en privé, en message privé. Donc quand on essayait de poster, il y avait un petit message du genre oui, ce contenu a été jugé mauvais par nos équipes, blablabla, et dangereux, enfin c'était un truc tout en rouge avec des croix, genre attention vous allez mourir. Et voilà, c'est le truc, ils se sont pas dit, comment dire, ils sont tellement enfermés dans leur et ça on reprend le sujet du premier numéro de ce podcast, ils sont tellement enfermés dans leur bulle, ils se sont pas dit voilà que des gens vont capter et que ça va être complètement contre-productif, donc ça va faire en fait un effet ce qu'on appelle un effet Streisand. Donc pour vraiment résumer l'histoire, en fait c'était Barbara Streisand qui avait fait un événement quelconque, et il y avait un journal qui avait pris en photo sa maison, donc sa grande maison, et voulu interdire que ce cliché soit diffusé. Et en fait, à l'inverse, comment dire, c'est que le fait qu'elle ait voulu interdire, tout le monde l'a partagé, et donc beaucoup plus de gens ont vu la maison que si le journal relativement confidentiel dans lequel la photo serait parue normalement. Bref, on s'est compris. Et voilà, c'est l'imbécilité du geste. Effectivement, comme on pouvait s'y attendre, Donald Trump a sauté sur l'occasion, parce que ça fait plusieurs mois que un de ses éléments argumentatifs, c'est de dire que les médias, les réseaux sociaux sont biaisés contre, en fait, ont un biais négatif contre les conservateurs. Et là, voilà, Facebook et Twitter leur a servi un truc sur un plateau.
Écoute, ça nous fait une très bonne transition vers la seconde partie, parce que finalement, ce que tu décris par ta contrariété, c'est encore une fois l'accentuation de la polarisation, en fait, entre deux types d'opinions, hein, les bonnes opinions progressistes et les autres, les méchantes du côté de Donald Trump. Je dis que ça fait une bonne transition parce que nous recevons Pascal Bruckner, le philosophe, qui vient nous parler de son dernier livre qui s'appelle « Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc ».
Vous écoutez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté.
Pascal Bruckner, bonjour.
Bonjour Peggy Sastre.
Vous faites partie de ces figures intellectuelles qu'on ne présente plus, d'autant moins aux lecteurs du Point qui peuvent trouver vos analyses dans nos colonnes depuis plusieurs années, mais je vais quand même tâcher de le faire sommairement, et du moins en ce qui concerne les raisons de votre présence dans ce podcast. Donc à la mi-octobre, vous avez publié chez Grasset Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, qui aborde des sujets qui nous occupent beaucoup, Laetitia et moi, et même, j'ajouterais, en ce qui me concerne, qui me préoccupe énormément, et qu'on pourrait résumer ainsi. Donc, c'est comment, sous couvert de progressisme, l'obscurantisme est en train de faire son grand retour sous nos latitudes, avec l'homme, d'ailleurs, si ce n'est le mâle, blanc, qui passe de l'archétype du persécuteur à celui du persécuté, en devenant le bouc émissaire portant tous les péchés du monde. Et donc, c'est un retournement paradoxal qui passe, comme vous l'analysez, par le dévoiement de trois nobles causes nées en Occident. Donc, c'est le féminisme, l'antiracisme et l'anticolonialisme. Et donc, il ne fleure pas très bon, même sans pandémie dans les parages, pour les années à venir. Et l'idée de ce livre, comme vous le précisez vous-même dès le départ, vous est venue l'an dernier, quand après que vous avez eu l'outrecuidance de vous en prendre à notre Bernadette Soubirous des temps modernes, c'est-à-dire Greta Thunberg, beaucoup de voix se sont élevées pour vous faire taire, en fait, et qualifier vos propos d'élucubration de vieil homme blanc encroûté dans le passé et dépassé par les événements. Ce qui, en bon anticonformiste que vous êtes, a eu l'effet strictement inverse. Donc on a voulu vous faire sortir par la fenêtre et vous revenez par la cheminée. Et donc vous revoilà sur le champ de bataille culturel, donc les culture wars, comme on dit en bon français. Et donc je laisse maintenant à Laetitia le soin d'ouvrir notre discussion en bonne et due forme.
Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour Laetitia.
Moi, j'avais une question peut-être un peu provocatrice, parce que finalement, ce que vous critiquez, donc la culpabilisation de l'homme blanc, la déconstruction postmoderne, l'obsession identitaire, finalement, est-ce que ça n'est pas assez ancien ? Finalement, ce qu'on appelle le politiquement correct sévit depuis les années 60, et nos sociétés n'en sont pas mortes. Donc, ce n'est pas nouveau. Et puis, peut-être que ça n'est pas si grave que ça. Alors, qu'en pensez-vous ?
Alors, ça n'est pas nouveau, mais c'est vrai que dans les années 60, il y a eu une sorte de passage de relais entre le marxisme, qui était alors l'idéologie dominante, portée par le communisme et ses différents avatars, donc le passage de relais du marxisme au structuralisme, et qui a été un peu le passage entre de Sartre à Foucault et les polémiques qui ont eu lieu entre eux. Et le marxisme portait encore, malgré ses défauts que l'on connaît, un projet universaliste, et Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari et les autres ont remis en cause ce que Derrida appelait le phallo-logocentrisme. Bon, c'était un mot barbare, mais on adorait à l'époque les néologismes compliqués et obscurs. Et cette critique des Lumières, de l'universalité, a franchi l'Atlantique. Derrida, Foucault sont devenus des stars universitaires aux États-Unis, et les Américains nous renvoient donc cette idéologie refaçonnée, remodelée selon leurs propres critères, et que nous adoptons ici en France, tout simplement parce que les gauches, les différentes gauches sont en crise et sont incapables de comprendre le monde réel, ce qui explique que nous avons en France une situation étrange où la population demande de la protection et de la sécurité, alors qu'une petite partie des élites dans les médias tombe dans des élucubrations idéologiques qui, évidemment, nous étonnent, nous font horreur ou nous font rire. Enfin, le rire et l'horreur sont mêlés en même temps. Donc, le politiquement correct est quand même une attitude qui est plus récente, qui date, je crois, des années 80. Moi, j'ai enseigné aux États-Unis à cette époque-là, jusqu'il y a peu. Et la correction politique marque quand même un tournant lorsque le projet révolutionnaire ne s'adresse plus à la société tout entière. Donc, on n'a plus l'ambition de changer le monde, mais on a simplement l'ambition de protéger un certain nombre de minorités. Ça peut être des minorités ethniques, des minorités sexuelles, mais c'est ça le grand passage, me semble-t-il, de l'ancienne gauche encore universaliste, révolutionnaire ou réformiste, à la gauche actuelle, qui est simplement une gauche antiraciste et pro-minoritaire. Prenez par exemple la lettre qu'a adressée Dov Alfon, le nouveau rédacteur en chef de Libération, à sa rédaction. Il a dit « Libération restera pour toujours du côté des pauvres, c'est-à-dire c'est les LGBT, et se battra contre l'islamophobie et les différents types de racisme. » Donc on a là vraiment le passage, l'exemple même d'une gauche qui n'a plus grand-chose à voir avec la social-démocratie ou même le projet révolutionnaire tel qu'il pouvait s'incarner chez les néo-staliniens, chez les trotskistes ou les maoïstes d'ancienne mémoire.
D'accord. Alors, vous citez les États-Unis, mais quelles sont les différences entre la situation américaine et la nôtre ? Parce que tout de même, nous ne vivons pas exactement les mêmes événements, les mêmes mouvements et même la même frénésie identitaire.
Ah ben, la différence est énorme. C'est que l'Amérique n'a pas la même histoire que la France. Et je dirais même que deux révolutions américaines et françaises ont toujours été dans un rapport de concurrence, de compétition et de concurrence et d'imitation, puisqu'il y a, véritablement, me semble-t-il, entre la France et les États-Unis, un lien passionnel de haine ou d'amour et des deux côtés. Et ça, c'est intéressant. Alors, l'histoire, évidemment, n'est pas du tout identique. Les Américains ont pratiqué l'esclavage sur le sol, ce qui n'a pas été le cas de la France. Ensuite, la ségrégation. Et pour eux, la citoyenneté américaine se définit aussi, entre autres choses, par l'appartenance ethnique et par la couleur de peau. Et donc, c'est un casse-tête. Les procédures de recensement aux États-Unis sont un véritable casse-tête parce que les gens remplissent parfois plusieurs cases, leur croyance, leur nationalité d'origine, l'appartenance imaginaire ou réelle à laquelle ils veulent être reliés. Là où la République française ne connaît que des individus, les États-Unis d'Amérique ne connaissent que des communautés. Et lorsque l'on adapte la situation américaine à la situation française, lorsqu'on la décalque, comme le font nos néo-féministes, nos antiracistes racistes, comme je les appelle, eh bien, ils commettent un contresens et ils adaptent mécaniquement à notre situation des concepts nés sur le sol américain, comme par exemple la notion de privilège blanc. Alors, expliquer qu'un blanc pauvre qui gagne 1000 euros par mois ou même moins est un privilégié par rapport à un citoyen noir qui est riche ou célèbre me paraît être un contresens sociologique. Mais c'est à cela que conduit la notion de privilège blanc quand on ne sait plus distinguer l'apparence physique de la situation sociale.
Justement sur ces notions de privilège blanc, en fait, ou ces éléments de langage de ces idéologies que vous critiquez dans votre livre. Moi, j'ai l'impression, en fait, que la résurgence actuelle donc de cette pensée militante donc d'une certaine extrême gauche s'accompagne d'une dégradation et en fait d'une uniformisation du langage, et en fait comme si tout était produit en série par une sorte d'algorithme programmé pour effacer toute nuance, tout humour et toute beauté. Et en fait, il y a pas de pensée non plus. On est plus proche d'une sorte de cocktail entre marketing et catéchisme, avec justement des éléments de langage très très répétitifs. Donc comme vous dites, le privilège blanc, c'est un truc qui revient tout le temps, et Moi, ça en vient à me dégoûter, en fait. À la fois cette répétition et le fait, voilà, qu'il y a pas de pensée, c'est juste on plaque des choses voilà, sans réfléchir. Et je trouve que le contraste est très net avec des écrits plus anciens, notamment je pense à Frantz Fanon, qui était, on peut pas dire qu'il était pas engagé, mais qu'il avait un véritable style, une véritable personnalité dans l'écriture. Et pour finir, je trouve que cette évolution est vraiment paradoxale, parce qu'on parle d'une famille idéologique, donc, qui a débuté avec l'école de Francfort et qui accorde un pouvoir énorme au langage. Donc, est-ce que vous partagez ce constat, et est-ce que vous pensez que, en fait, les formes concrètes de radicalisation qu'on voit naître de ces idéologies-là, en gros, voilà, les violences que ça produit, sont le produit justement de cette détériorisation du langage?
Oh, bah, oui, alors là, je rejoins tout à fait votre pronostic. Il y a un effondrement de la pensée militante qui vient, je crois, de la panne idéologique de la gauche. La gauche est un peu à l'agonie. Au lieu de chercher des outils nouveaux, elle les emprunte outre-Atlantique et les recopie sans considération et les adapte à notre réalité. Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont... Vous parlez d'un manque d'humour. Alors évidemment, ça, c'est l'humour est banni, mais ces gens sont drôles malgré eux. Quand j'écoute Alice Coffin, j'hésite entre le fou rire et la consternation. Et je me dis qu'elle doit être très malheureuse. Mais ce qui est assez drôle, c'est le franglish qui est parlé par nos militantes. Quand Iris Bray est passée sur France Culture, c'était, je crois, cette année ou l'année dernière, à l'émission de Guillaume Herner le matin, donc le journal du matin de France Culture, et j'écoutais dans un demi-sommeil, et j'entendais « Melguez, Melguez ». Alors je me dis, tiens, comment ça se fait que cette militante féministe parle de « Merguez » ? Et pas du tout, non, c'était le « Melguez », le regard masculin. Ah, bien sûr, mais si elle l'avait dit en français, elle aurait eu l'air d'une plouque. Toutes, vous avez d'ailleurs remarqué que beaucoup de ces militantes enseignent aux États-Unis et reviennent auréolé d'une sorte de gloire médiatique et viennent nous faire la leçon à nous, pauvres ploucs, qui parlons encore le français classique, parce que elles ont tous les concepts adaptés pour et expliquer notre réalité. Alors, c'est vrai que là, bon, les outils sont quand même très pauvres et malheureusement, on est obligé d'être un peu nostalgique, parce que si on lit, vous avez cité Frantz Fanon avec raison, Frantz Fanon est un très grand théoricien, peut-être d'accord ou pas d'accord, mais enfin, il dépasse de beaucoup la plupart de ses disciples décoloniaux d'aujourd'hui, qui se revendiquent pourtant de lui et sont simplement, sous la plupart du temps, des petits boutiquiers de la rancune qui veulent faire rendre gorge à la France et lui faire payer ses forfaits d'hier. Ce que Frantz Fanon refusait absolument, puisque pour lui, l'idée de vengeance était contraire au projet révolutionnaire. Mais dans le domaine féministe, par exemple, Simone de Beauvoir, Elisabeth Banater, Yvette Roudy, ou bien Gisèle Halimi n'ont pas d'héritière. Et on voit bien que toutes ces féministes qui écrivent des livres, qui sont violentes, ont en quelque sorte coupé la transmission quand elles-mêmes ne pointent pas un doigt vengeur sur leurs aînés. Et quand des féministes universalistes comme vous-même ou comme Caroline Fourest ou comme d'autres essayent d'apporter une parole tempérée, une parole modératrice, essayent de peser le pour et le contre, elles sont immédiatement dénoncées, et vous le savez, comme des collaboratrices du patriarcat. Moi, je suis tout à fait étonné, par exemple, du retentissement qu'a eu la lettre signée par un certain nombre de féministes, dont Catherine Millet et Catherine Deneuve, lorsqu'elles voulaient s'opposer aux excès de MeToo. Et Emma Thompson, l'actrice anglaise, a traité Catherine Deneuve de collabo du patriarcat, oubliant quand même le combat que Deneuve avait mené, notamment en faveur de l'avortement. Et la simple existence d'une actrice comme Catherine Deneuve prouve la liberté féminine beaucoup plus que les vociférations des néo-féministes actuelles. Mais effectivement, on a l'impression que quelque chose ne passe plus dans les générations, et alors on traite les anciennes générations de dépassées, de désuètes, de ringardes, mais malheureusement, ce qui paraît ringard aujourd'hui, c'est de réfléchir encore.
Pascal Bruckner, je voulais revenir en fait sur votre mention des États-Unis à nouveau, et je voulais parler en particulier des civil rights, donc des droits civiques. Je ne sais pas si vous connaissez le dernier livre du journaliste américain Christopher Caldwell, qui s'appelle The Age of Entitlement, donc qui n'a pas été traduit en français.
Oui, je l'ai.
Et qui propose une thèse assez intéressante en fait pour les États-Unis. Au lieu de dire comme souvent que en fait c'est la culture, c'est-à-dire le progressisme identitaire, qui a fait la politique, donc les lois en faveur des minorités, il estime que c'est le contraire en fait, que c'est la politique. Donc précisément le Civil Rights Act de 1964, qui pour lui s'écarte manifestement de la Constitution américaine et qui a donné lieu à toutes sortes de discriminations positives, eh bien c'est la politique qui a façonné cette culture obsédée par les discriminations. Alors, qu'en pensez-vous? Dans quel sens se fait la causalité à votre avis? Et là, on parle des États-Unis, mais après, on pourrait parler de la France.
Alors là, je suis pas assez armé pour savoir si ce sont les droits civiques qui ont causé la fragmentation des États-Unis ou si c'est la politique. Mais le problème, c'est qu'il me semble que l'Amérique est mal partie dès le départ, dans la mesure où elle affirmait la supériorité des Blancs sur les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que même la notion de Blanc, comme l'a très bien montré une historienne afro-américaine, Irving Penter, la notion de Blanc elle-même a été l'objet d'un très long combat aux États-Unis. Et je crois que c'est Bill Clinton expliquait que ses parents n'avaient pas été blancs tout de suite, parce qu'ils venaient de je ne sais quelle, je crois, d'une immigration irlandaise, et qu'au fond, ils ont été blancs qu'au bout d'un certain nombre de dizaines d'années, et puisqu'au départ, seuls les WASP avaient droit à ce titre, et les catholiques, les juifs, bien sûr, mais aussi les Russes, les Ukrainiens, les Italiens, les Irlandais étaient exclus de cette prérogative, et donc il a fallu pour un certain nombre d'immigrants gagnaient en quelque sorte leur droit à devenir américains de plein pied, en sachant qu'aux États-Unis, comme l'a dit une prix Nobel, les immigrants, lorsqu'ils arrivaient à Staten Island, avaient tous dans l'idée qu'au-dessous d'eux, il y avait plus misérable encore, et c'était les Noirs. Donc la révolution des droits civiques m'a semblé à moi plutôt une révolution de type universaliste. Simplement, ce qui s'est passé, me semble-t-il, et là je rejoindrai plutôt l'analyse de mon ami Marc Lilla, ce qui me semble, c'est que le Parti démocrate a perdu l'illusion d'un bien commun, la vue d'une sorte de finalité collective des États-Unis, et s'est mis à faire du clientélisme minoritaire. Et donc, on l'a bien vu avec la campagne d'Hillary Clinton, 5 minutes pour les Noirs, 5 minutes pour les homosexuels, ensuite les Latinos, ensuite les handicapés, et je crois que cette erreur-là lui a coûté son élection, et c'est précisément ce que Joe Biden ne veut pas faire, puisque conscient des erreurs de la candidate précédente, maintenant il s'adresse à la classe ouvrière blanche. J'étais hier à France Culture, on a diffusé un bref extrait d'une femme qui est sociologue et qui a écrit un livre qui s'appelle « Pauvre petit blanc » où elle expliquait avec une certaine rage dans la voix qu'il n'y avait pas de pauvre petit blanc, que les blancs étaient encore, même pauvres, étaient encore privilégiés par rapport aux pauvres des autres minorités. Et son propos m'a paru un peu outrancier, parce qu'on n'est pas dans la compétition des misérables. Dans ce cas-là, évidemment, on trouvera toujours plus malheureux que soi. Et il me semble que l'intelligence d'un candidat opposé à Trump aujourd'hui, c'est justement de rassembler l'Amérique autour d'un même idéal plutôt que de la fragmenter en communautés en guerre les unes avec les autres.
Pour moi, une ligne de faille importante en fait entre cette nouvelle gauche et le discours contestataire des années 60-70 dont vous avez été un porte-parole. Me semble porter en fait sur le rapport à l'immixtion d'une autorité morale et en particulier étatique dans la vie privée. Et c'est ce qu'on voit avec la boursouflure bureaucratique croissante des universités américaines, mais aussi françaises. Hein, ça commence en fait où le nombre de postes administratifs en charge de la vie étudiante ne cesse de surpasser ceux du personnel dédié réellement à l'enseignement. Donc voilà, ma question, c'était comment est-ce qu'on est passé, en gros, d'un « il est interdit d'interdire » à « en fait, il faut un flic régissant chaque aspect de notre quotidien ». Et est-ce que on peut voir ce que vous, c'est quelque chose dont vous parlez à un moment dans votre livre. Est-ce qu'on peut y voir un retour de bâton ou de balancier, en fait, face aux excès libertaires des années 60-70, où absolument toutes les normes étaient remises en question, notamment en lien avec la pédophilie?
Oui, c'est ce que, effectivement, c'est un renversement qu'on a eu du mal à comprendre, à penser quand on était issu de cette famille-là. Parce qu'on espérait que les tabous allaient tomber les uns après les autres, y compris les pires, et puis pas du tout. Comme a dit l'ami, son nom m'échappe, mais ça va me revenir, l'envie de pénis s'est transformée en envie de pénal. Vous savez, c'est Muret.
Voilà.
C'est Muret qui a dit ça, et c'est très bien vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, peut-être qu'un certain nombre de femmes ont eu le sentiment, à tort ou à raison, d'être les perdantes de la libération sexuelle, et qu'au fond, on avait cassé les interdits simplement pour les offrir au désir des mâles. Et donc, c'est ce qui explique que beaucoup de femmes se sont retournées contre la liberté nouvellement acquise, et ont décidé qu'ils ne pouvaient pas permettre à l'espèce masculine de continuer à prospérer à ses dépens. Et donc, effectivement, la vie privée est devenue tout d'un coup, a été tout d'un coup exposée au regard public. Mais quand on regarde le premier féminisme, enfin, en tout cas le féminisme des années 60-70, on s'aperçoit qu'il contient en germe tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai évoqué Alice Coffin, mais on a oublié Valérie Solanas, qui avait fondé un groupe qui s'appelait SCUM, Society for Cutting Up Men, c'est-à-dire la société pour castrer les hommes, pour les émasculer, et elle-même disait qu'il fallait en finir avec le mâle au phallus cruel et méchant. Et donc... Toutes ces voix se sont déjà exprimées, simplement elles étaient minoritaires. Et la libération des mœurs, le féminisme universaliste, avait en quelque sorte une voix prépondérante. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ces minorités d'autrefois sont devenues prépondérantes. Et quand vous défendez, comme vous le faites vous-même ou d'autres, un féminisme universaliste, on vous traite donc de laquais du patriarcat, pour reprendre ce mot qui me semble toujours un tout petit peu ample, trop ample pour ce que nous vivons et pour la réalité de la situation masculine aujourd'hui. Mais bon, ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir également. Et donc la liberté est devenue aujourd'hui synonyme de liberté du renard dans le poulailler. Et on veut au contraire protéger les femmes des assauts des hommes. Donc des choses aussi simples que la séduction, la drague, font désormais l'objet d'une surveillance extrême. Et malheur à celui qui s'égare sur les chemins d'une proposition indécente. Je pense à Éric Brion, par exemple, avec Sandra Müller. Sandra Müller a été condamnée grâce au talent d'une avocate que je connais bien parce qu'elle a été mon étudiante, Marie Burgu-Buru, qui est d'ailleurs très active à la fois dans la défense des femmes battues, mais aussi dans la défense des hommes injustement accusés. Et donc, nous marchons aujourd'hui sur des œufs. Et entre un homme et une femme, lorsqu'ils se plaisent et lorsqu'ils veulent se rapprocher l'un de l'autre, plane toujours l'ombre de l'avocat et du juge. Et je connais personnellement des avocats qui enregistrent, d'ailleurs je l'ai mis dans mon livre, toutes les conversations qu'ils ont avec leurs petites amies et qui gardent leurs mails, qui gardent leurs SMS, au cas où la relation tournerait mal, ils seraient accusés de gestes déplacés, voire d'agressions sexuelles. Donc c'est une situation qui ressemble beaucoup à la situation américaine, mais que je ne trouve pas, pour ma part, très agréable et peu propice en tout cas aux élans de la tendresse.
Oui, ce que vous décrivez est assez terrifiant quand même. Et ce que je trouve également assez frappant, c'est que finalement, là, on est en train de parler de minorités comme des victimes. Mais la victime peut devenir très rapidement un bourreau. Et ça m'amène à la question suivante, c'est qu'on présente en général les mouvements de ces minorités comme ceux de personnes qui demandent qu'on fasse justice, qu'on les protège, qu'on les dédommage de certaines choses. Mais ça se transforme aussi, il me semble, dans une tentative de prise de pouvoir. Et finalement, la position de victime permet de réclamer une forme de pouvoir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose d'intentionnel ? Est-ce qu'il y a des gens un peu cyniques qui ont compris que c'était une façon de réussir ? Ou bien est-ce que c'est plutôt quelque chose d'un peu structurel ? Ce serait une des conséquences inattendues de la méritocratie ou de la compétition. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à trouver sa place dans la compétition d'aujourd'hui, eh bien, on essaie de la prendre autrement, donc en se constituant comme victime. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Le premier qui a théorisé cette... Ce magistère de la victime, c'est Nietzsche. Il y voit à juste titre la conséquence du christianisme. Et celui qui a le mieux parlé de cela à l'époque moderne, c'est René Girard. Et moi, évidemment, je suis plutôt un disciple de Girard plutôt que des grands maîtres des années 70. Se dire victime, c'est, comme vous l'avez très bien exprimé, c'est prendre le pouvoir sur autrui, puisque vous avez tous les droits et aucun devoir. Vous êtes... faites partie des parias, des damnés de la terre, et donc la société vous doit tout, et quiconque objecte quoi que ce soit à votre égard est immédiatement un salaud, une ordure, et s'apparente au cercle des dominants. C'est ça qui est extrêmement bénéfique dans le statut de victime. Alors, évidemment, nous devons en démocratie faire une place aux vraies victimes, c'est-à-dire celles qui ont véritablement souffert. Et dans le mouvement actuel, je vois un double danger. D'une part, à force d'identifier le moindre geste, déplacé ou non, à un viol, eh bien, on finit par minimiser les femmes qui ont véritablement été victimes de viol, et on noie ce crime dans toute une panoplie d'intentions qui l'isole et qui finalement et finit par le rendre négligeable. C'est le premier point. À force de dire que tout est viol, lorsque le viol réel arrive, il est complètement mis à l'écart. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que dans le mouvement néo-féministe, une petite minorité de femmes, très souvent homosexuelles, tentent de prendre le pouvoir sur les autres femmes, et leur explique que l'hétérosexualité est un crime, qu'elle est aussi naturelle, comme le dit Virginie Despentes, qu'un enclos électrique pour garder un troupeau de vaches, et que si les femmes étaient véritablement libres, si elles étaient conscientes de leur véritable désir, elles iraient spontanément vers les autres femmes et laisseraient tomber les hommes. Et donc la finalité de ce néo-féminisme agressif, c'est effectivement d'en finir, comme c'était le cas déjà dans les années 80-90 aux États-Unis, d'en finir avec les hommes, d'en finir avec l'hétérosexualité.
Mais c'est très amusant ces façons de voir, parce que c'est vraiment un truc qui me fait vraiment rigoler. Enfin, je rigole en général pour ces choses-là, mais là encore plus parce que c'est vraiment une négation, enfin c'est même pas une négation en fait, c'est une ignorance en fait des différences comportementales et des différences de préférences sexuelles. Et moi j'avais éclaté de rire, avec Virginie Despentes, c'était une interview chez Léa Salamé je crois, et elle disait voilà ce que vous disiez, oui il faudrait dans un monde idéal toutes les femmes seraient lesbiennes et etc. C'est vraiment un discours qui n'a pas conscience de la réalité des choses. Et pour être un peu provocatrice, moi ça me fait penser à une stratégie en gros de terrorisme sexuel. C'est le côté genre on va supprimer les mâles pour récupérer toutes les femelles à nous. Et ça, je sais pas, c'est la stratégie de Boko Haram quoi.
Vous avez parfaitement raison, c'est une technique de drague comme une autre. tout à fait. C'est-à-dire, effectivement, on élimine le rival, le mâle infâme, et puis on prend toutes les femelles pour nous. C'est ce qu'a dit notamment Alice Coffin, en engageant les femmes à ne plus coucher du tout avec les hommes, mais qu'avec elles, en fait. Voilà, c'est... Alors, il me semble que justement le féminisme et les mœurs avaient pour but d'empêcher ce type de captation. Puisque aujourd'hui, quand quelqu'un vous plaît, on doit lui faire sa cour. On doit courtiser son consentement. Mais là, c'est quasiment l'inverse. C'est arrêter de regarder les hommes et venez vous blottir dans nos bras puissants qui vont vous donner des plaisirs que les hommes ne vous auront jamais donné. Donc, effectivement, vous avez raison, la comparaison avec Boko Haram est très bien vue. C'est les Boko Haram de l'amour en 2020.
Il y a une autre technique de drague aussi du côté des hommes maintenant. En fait, c'est de dire qu'ils se rangent absolument du côté de ces néo-féministes, qu'ils se rangent absolument du côté MeToo. Enfin, moi, j'ai expérimenté ça après MeToo, où en fait, j'étais celle qui était un peu sceptique, et en face de moi, j'avais des hommes qui trouvaient ça fantastique. Et moi, je pense que c'est une technique de drague, parce que ça permet, en fait, pour un homme de passer pour quelqu'un d'inoffensif et de gentil.
Oui, oui, c'est un peu ce qu'a fait Yvan Jablonka dans son livre. Il voulait des hommes justes, débarrassés du patriarcat, et il explique qu'il ne faut pas regarder la femme comme un objet sexuel, mais comme un être de plein droit, et que il faut courtiser son consentement à chaque étape du processus, parce que sinon on est un infâme prédateur habité par la phallocratie. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça fait un peu faillot, hein, franchement.
Voilà. Moi,
ça fait un peu faillot de service qui se dit tiens, je vais me faire bien voir. Mais c'est que le pauvre Jablonka s'est fait remonter les bretelles par une féministe, je ne sais plus exactement laquelle, qui lui a dit « mais on n'a pas besoin de vous, tout ça on le savait ». Car effectivement, là, il marchait un peu sur les plates-bandes des féministes les plus radicales. Donc de toute façon, quand on est un homme, quoi qu'on fasse, on est en porte-à-faux, puisque on est coupable par nature d'être un homme. Et donc on doit aller, si j'ose dire, se rhabiller ailleurs et ne pas essayer d'emprunter aux femmes leur rhétorique outrancière. Et Jablonka a consacré un très gros livre à ce problème où il proteste de sa bonne foi. Il explique que la femme est l'avenir de l'homme, que les femmes sont bonnes, justes, gentilles, sympathiques, et que l'homme est au contraire l'héritier d'un passé lourd de crimes et d'abominations. À pas de bol, ça n'a pas marché, ni chez du côté des hommes, ni du côté des femmes. Et personne n'a vraiment cru à cette démonstration de bonne volonté qui paraissait un peu forcée.
Pascal Bruckner, c'est le moment de conclure cette conversation. Merci beaucoup d'avoir rejoint Les Contrariantes. Rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro.
Merci beaucoup, à vous deux.
Merci.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts.
Le Point.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.